Et c'est la rentrée, c'est la rentrée sur FM+, c'est la rentrée sine qua non, l'émission de votre association Profil. On est mardi 19 septembre, si vous nous écoutez en direct, merci beaucoup d'être avec nous. On l'annonce depuis ce matin, quand même, que sine qua non revient, on en a parlé pendant la matinale pour redonner envie, et ça y est, on a joué un peu sur le suspense, voilà. On a joué un petit peu sur suspense, mais on est bien ensemble avec toi, Ariel Demont. Bonjour, Ariel.
Et bonjour.
Ça fait plaisir de te retrouver pour cette belle rentrée.
Ah oui, c'est très cool. Plaisir de
merci
vous retrouver.
Merci d'être là. Claude Bonnet également, le retour. Ça va toujours, Claude?
Oui, bien sûr.
Avec de beaux films aujourd'hui à partager ensemble. On peut les citer. Il va y avoir Anatomie d'une chute, Fermez les yeux, le livre de solutions, solutions au pluriel, Le ciel rouge. Et il y aura des coups de cœur. Un coup de cœur chacun, ça arrive en fin d'émission, donc restez bien avec nous sur le
4.0,
c'est ça, on laisse la surprise, même moi je ne sais pas, voilà, je vous dis, chers auditeurs, chers auditrices, moi aussi j'ai envie de savoir, mais je vais rester ici pour découvrir, et sans plus tarder, peut-être déjà une première bonne annonce, la bonne annonce du film Anatomie d'une chute pour démarrer, c'est parti.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sorti de la maison, c'est ça?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça
ah,
faisait...
Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death.
Stop. I did not kill him.
That's not the point.
Palme d'or du festival de Cannes 2023, Anatomie d'une chute est sorti cette même année. Je crois que c'est un film un peu policier, dramatique... C'est un thriller, il y a du judiciaire un petit peu aussi, il faut le dire, Ariel.
Alors, oui, le dernier point, je crois que t'es bon là.
Ah,
parce
j'ai
que...
tout cité,
Donc, c'est un film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes, mm-hmm. Cette année, en 2023. Et j'étais assez contente parce que, pour une fois, je suis d'accord avec la Palme d'Or, ce qui n'est pas souvent le cas. Là, c'est un film exigeant, un film intéressant, intelligent, et je trouve qu'il la mérite, cette Palme. Voilà.
Ouais.
Donc, c'est un film de Justine Triet, qui a 45 ans, Triet, je crois qu'on dit, qui a 45 ans, qui a fait des études aux Beaux-Arts, qui a commencé par des documentaires. Elle en a fait un sur les présidentielles, sur Solferino, qui après est devenu une fiction. Donc après la fiction, elle a commencé avec un court-métrage en 2012, puis un long-métrage en 2013, et c'est une habituée de Cannes. Elle était venue pour l'un des premiers films, et ensuite elle est venue en 2016 pour Victoria, mmh. avec Virginie Efira, puis en 2018 avec Sibylle, toujours avec Virginie Efira. Et c'est sur Sibylle qu'elle a rencontré Sandra Hüller, donc, qui interprète le rôle de Sandra dans le film Anatomie d'une chute. Elle a écrit le personnage en pensant à elle, hein, cette actrice qui l'a inspirée.
Ouais.
Donc c'est un film qu'elle a fait avec son scénariste Arthur Harari. Ils ont vraiment fait le film ensemble, hein, à égale partie.
Ils ont fait des enfants aussi, mais ça c'est...
Et ils sont aussi ensemble, voilà, à la ville, comme on dit. Et Arthur Harari, c'est aussi un acteur, scénariste et réalisateur. Il a d'ailleurs un petit rôle dans le film, le rôle du critique littéraire. Bon, je ne l'avais pas reconnu, mais... Et c'est un réalisateur qui est assez... côté, enfin en tout cas qui fait parler un peu de lui. Il avait réalisé un film qui s'appelle Onoda en 2021 sur la guerre au Japon, qui était très très exigeant aussi, hein. Il fait presque 3 heures, enfin bon. Donc ce film Anatomie d'une chute, effectivement, comme tu le disais, Rija, c'est un peu un film de procès.
Oui.
Hein, donc une enquête. Oui, mais bon, c'est pas le centre du film même. Mais on peut dire en général que c'est un film sur le procès qui a lieu après la découverte d'un mort. On ne sait pas. Suicide, accident, meurtre. Enfin voilà, c'est le procès qui commence un an après le début du film. Donc le début du film, l'histoire en général, c'est donc une famille, Sandra, Samuel et Daniel, leur fils de 11 ans, qui vivent dans la montagne au-dessus de Grenoble, je crois. Et Et donc, il y a cette enquête pour mort suspecte qui est ouverte quand Samuel trouve la mort, donc on ne sait pas de quelle manière, en bas de sa maison. Et donc, Daniel assiste, le fils assiste au procès un an plus tard. Voilà, et donc, je commence juste avec les premières images parce que j'aime beaucoup. C'est vraiment l'impulsion.
Il y a une entrée dans le vif du sujet.
Voilà, fracassante.
Assez fracassante, effectivement.
Et donc, j'ai noté que le premier protagoniste, c'est le chien.
Ouais.
Le chien Snoop, qui est le conducteur de Daniel, puisque ouais. Daniel est victime de cécité. Il a eu un accident à 4 ans. Et donc, le premier personnage, c'est le chien. La première chute, c'est la balle. Voilà. La balle qui chute, la balle de Snoop qui chute dans l'escalier. Donc on entend le bruit de la balle. Voilà, ensuite je te laisse continuer sur le début du film.
On peut pas trop en dire sur le début du film parce que
mais bon.
Effectivement c'est le cinquième du film, quoi. Ça dure à peu près une demi-heure sur 2h30. Et c'est tout ce qui...
Avant le procès.
Voilà, avant le procès, donc, qui est le gros morceau de ce film. Mmh. Et c'est ce qu'on voit habituellement dans les films de procès, qu'on appelle aussi des films de prétoire. C'est l'introduction. Et ce qui le différencie de beaucoup de films, justement, c'est que on sait pas. On sait, il y a deux solutions, où il a sauté par la fenêtre ou on l'a poussé. Et tout l'intérêt du film, ça va être non seulement le suspense, à savoir quelle est la solution, si je puis dire, mais c'est surtout le portrait de cette famille qui est intéressante avec leur relation. Et le plus, c'est cet enfant qui est aveugle, j'allais dire, qui voit presque tout.
Oui. Et c'est la façon dont...
Dont on
entre dans...
Dans le film,
oui.
Dans l'histoire, en
oui.
fait, c'est ça.
Et dont on entre aussi dans sa conscience, dans sa façon de voir, puisque il a une façon de voir. Effectivement, dans les images, c'est très clair. Hein, donc d'abord, ce film de procès, bon, je te laisse le loisir peut-être de faire un rapport avec films américains,
oui,
mais c'est vraiment un film de procès à la française. C'est
voilà,
vraiment un procès.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est le
français.
Titre. Hein, et le titre, Anatomie d'une chute, et ça m'a parlé le film de Preminger qui s'appelait Autopsie d'un meurtre, mais Autopsie, c'est le titre français. Le titre original américain, c'est Anatomie, justement, d'un meurtre.
D'un meurtre.
Donc, c'est un vieux film qui date de 1959, donc qui est aussi long puisqu'il dure 2h40. Il y a un casting qui est pas mal, l'irémique, James Stewart, Ben Gazzara, l'acteur fétiche de Cazavette, et George C. Scott, qu'on a beaucoup vu quand même à l'époque dans le cinéma. Et là, par contre, il n'y a pas de mystère dans ce film. On sait que c'est le personnage qu'interprète Ben Gazzara, donc qui est un lieutenant de l'armée américaine, qui a tué un patron de bistrot qui avait précédemment violé sa femme. Voilà. Et toute la question qu'on se pose pendant cette histoire, aussi ce qui est intéressant, c'est la relation entre le mari, la femme et l'avocat au milieu, interprété par James Stewart. C'est... Est-ce qu'il était conscient et organisé, si je puis dire, pour tuer ce type, ou est-ce qu'il entre dans le cadre, donc, la justice américaine et française, c'est pas tout à fait pareil, mais là, ce que l'avocat avait trouvé, c'est une vieille, un vieux jugement, donc, qui datait de 40 ans avant, donc, où, dans un cas à peu près semblable, donc, l'accusé avait été acquitté, parce qu'il n'était pas donc pleinement conscient de ce qu'il faisait.
Dans le film américain.
Je suis toujours dans le film américain.
D'accord.
Donc il avait réagi sur une abuse. Pour revenir à ce film, moi ce qui m'a le plus impressionné finalement en dehors de cette histoire, de cette relation, on a beaucoup dit que Sandra Hüller était une actrice extraordinaire, qu'elle l'avait choisie, etc. Mais moi j'ai découvert un acteur donc que je connaissais pas et qui est l'avocat général du film.
Oui, Antoine Reinhardt.
Voilà, Antoine Reinhardt.
Ouais.
que j'ai trouvé bluffant dans ce film, parce qu'il a une gestuelle, il a une façon de parler, il a une façon aussi d'interroger la suspecte, on va dire, moi qui m'a vraiment bluffé.
Disons que c'est vraiment, il a une dynamique assez explosive dans le film, parce qu'il a vraiment un rôle, enfin, il est méchant, mais en même temps, il fait le méchant, mais on voit bien qu'il ne l'est pas, enfin, que c'est vraiment pas un jeu, mais enfin, c'est son rôle, quoi, de titiller la vérité, comme ça, et il est excellent, c'est vrai que c'est assez... assez exceptionnel de le voir dans ce rôle-là. En plus, il n'a pas trop l'habitude.
Oui, parce qu'en plus, effectivement, il a son rôle d'accusateur, mais par moments, on sent il y a des moments de faiblesse. Voilà. Et c'est là, en jouant sur ces deux tableaux, finalement, qu'il peut épanouir et faire ce jeu que j'ai trouvé, encore une fois, éblouissant.
Alors, la faiblesse, elle vient souvent de par la présence et les interventions de l'enfant, hein, donc ce Daniel, qui est aussi quand même un rôle assez remarquable, hein, ce petit garçon qui s'appelle Milo Machado Graner, et qui est totalement investi dans son rôle d'aveugle. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'un travail d'acteur. Et dans son personnage, il impressionne aussi parce qu'il a ce côté, bien sûr, d'un enfant qui ne sait pas où est la vérité non plus, puisque c'est quand même un film aussi sur la vérité et sur la vérité possible et probable, celle de son côté à soi et du côté des autres. Mais cet enfant questionne, pose toujours les bonnes questions. On a aussi sa vision. Donc, comme je disais, non seulement parce qu'on voit à travers sa conscience ce qu'il reçoit de ce procès, comment il l'interprète, comment il voit sa mère, comment il imagine son père. Donc, il y a des images sur les paroles qui sont dites pendant le procès. Et donc, on est dans sa vision à lui. Mais aussi, dans ses questionnements et dans ses réflexions, il a une maturité. Et c'est là où les adultes, souvent, sont un peu interloqués, hein, un peu impressionnés.
Notamment les enquêteurs.
Notamment les enquêteurs.
Voilà, qui veulent savoir, parce que finalement, c'est lui le seul témoin, entre guillemets, de cette mort. Et...
À part la mère, qui est donc témoin assisté.
Oui, qui est témoin assisté, mais la mère, donc, elle est quand même l'accusée pour beaucoup, beaucoup de gens pensent que c'est qu'elle y est sur. Et plus on avance dans le film, d'ailleurs, plus on a l'impression que on charge son rôle avec des révélations. Sauf, bon, je ne veux pas dire la fin, mais il me semble qu'elle est de plus en plus mal en point dans ce procès.
Alors Sandra, donc le personnage de la mère, oui, elle est quand même assez forte, enfin, comme en tant qu'actrice. Et c'est vrai que en tant que spectateur, j'avais l'impression qu'on était obligé de disséquer son comportement pour essayer de savoir, de comprendre si elle était coupable ou pas. Et elle est d'une parfaite ambiguïté. Et c'est vrai que jusqu'à la fin, on ne dira pas. Mais enfin bon, moi, il m'a fallu une deuxième fois pour essayer de me faire. Mais bon, jusqu'au bout, on doute. Et c'est très très bien, très très bien vu et intéressant aussi du point de vue de l'image, la façon dont c'est tourné, une caméra très mobile et où on participe vraiment et on a parfois l'impression d'être les yeux de Sandra et parfois les yeux de Daniel, le petit garçon.
Tous ces films, enfin, je pourrais en citer quelques-uns de ces films de prétoire, hein. Il y a le grand classique, c'est 12 hommes en colère, après il y a celui dont j'ai parlé, il y a aussi le procès Paradis d'Hitchcock, il y a un témoin à charge de Billy Wilder, puis après il y a J'accuse, qu'on peut mettre aussi dans cette catégorie, et il y en a un qui est tout récent, qui s'appelle Saint-Omer, que je n'ai pas vu, mais qui est assez impressionnant.
Qui marque aussi l'histoire du cinéma, de ce genre de cinéma. Voilà. Mais Anatomie d'une chute, c'est aussi plus que ça. C'est vraiment l'histoire d'un couple, l'histoire de la famille et l'histoire justement de la vérité qu'on croit être la sienne et de la vérité par rapport aux autres. Donc le regard des autres. Il y a vraiment une dissection comme ça de la société française à travers ce procès.
Pour terminer là-dessus, mais ce que j'ai aimé, un des plus de ce film, c'est la relation entre l'avocat et l'accusé.
Oui, alors l'avocat, voilà, très très bon aussi, Swan Arlo.
Qu'on connaît, qui est toujours excellent.
Oui.
Et donc qui est un ami, qui n'a pas été choisi évidemment par hasard, parce que c'est un ami de la famille, donc, et lui aussi, parce qu'il est partagé au départ entre les deux, même s'il a une certaine affection pour, comment il s'appelle, Sandra. Voilà, je trouvais que c'était quand même... Il y a des petits plus comme ça, donc des personnages secondaires qui sont vraiment très bien croqués, et c'est un autre plus pour ce film, je trouve.
Oui, et on rentre dans le vif du sujet avec lui quand il arrive et qu'il prend possession, il prend conscience de l'espace de cette maison, et tout de suite on sent sa sensibilité par rapport à Sandra qu'il va devoir dépasser pour faire son travail.
On aura décrit toute l'anatomie de ce film, j'ai envie de dire, pour l'anatomie d'une chute sortie en 2023. Si vous nous écoutez en direct, c'est encore disponible dans les salles au Diago et au Gaumont Comédie en ce mardi 19 septembre. On continue de tendre les oreilles ensemble avec une autre bonne annonce qui s'appelle « Fermez les yeux ».
Max ! Ranca !
Se llamaba Julio Arenas y era actor, uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película.
Sigue.
Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid.
Yo escribí el papel pensando en Julio.
Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje.
Victor Erice à la tête de ce film dramatique hispano-argentin, Fermez les yeux, sorti en 2023 également, Claude.
Oui, c'est un drôle de titre pour un film quand même. Parce que si on ferme les yeux, il ne reste plus grand chose à voir.
On ne voit pas le film.
Voilà, alors c'est un film de ce réalisateur espagnol, comme vous avez pu entendre sur la bande-annonce, Victor Erice, qui n'est pas du tout un staccanovisme. Staccanoviste, comme nous allons voir après, par exemple, pour Michel Gondry. C'est son quatrième long métrage en une cinquantaine d'années.
Oui, à peu près.
Il a commencé par un film. Donc il a fait autre chose. Il a fait pas mal de courts métrages et de documentaires. Donc il n'a pas fait que ça. Mais sa filmographie en long métrage, c'est L'Esprit de la ruche en 1973. En 1983, Le Sud. En 92, Le Songe de la Lumière. Et donc, cette année, Fermez les yeux. Donc évidemment, ça ne va pas loin. Et comme vous pouvez voir, il y a 22 ans d'écart entre l'avant-dernier et celui qui sort aujourd'hui. Alors, moi, c'est un film qui m'a ébloui. Je ne me souviens pas, il faudrait que je réfléchisse beaucoup pour trouver un film qui m'a tant plu que celui-là, parce que c'est une mise en abîme déjà. Alors, je vais vous dire le début du film, parce que je pense qu'il ne faut pas trop en révéler. On est en 1947, on est dans une belle maison, et à l'intérieur, c'est meublé, comment dire, comme dans le Lotus Bleu de Tintin. Donc, il y a un vieux monsieur qui est assis sur une espèce de trône. Il est assez imposant, donc il est épanoui un peu comme... Monsieur Arcadine, par exemple, oui. D'Orson Welles. Et dans cette maison, donc.
Le nom de la maison aussi.
Oui, alors le nom de la maison, c'est Triste le Roi.
Triste le Roi.
Voilà. Qui est déjà tout un programme, peut-être.
Ouais.
Et donc, dans cette maison, pour rajouter donc au décor, il y a quand même le serviteur chinois, avec les mains dans les manches, la courbette, le petit truc sur la tête et les lunettes cerclées. Voilà.
D'où Tintin.
Voilà. D'où Tintin. Voilà, et donc ce monsieur, donc qui est âgé, on sent que sa fin de vie est proche, il reçoit un détective et il charge de retrouver sa fille, donc qui s'appelle Judith, et qu'il n'a pas vue donc depuis des années et qui doit se trouver vraisemblablement en Chine, voilà, à Shanghai plus précisément. Mais Shanghai, comme tout le monde sait, c'est vaste. Et là, tout d'un coup, donc ça dure à peu près 20 minutes, cette histoire-là, et ça s'arrête. Et on se retrouve 22 ans plus tard sur un plateau de télévision avec le réalisateur de ce film, donc qui s'appelle Miguel. Et il est interviewé. Il est interviewé et justement, on lui demande s'il y a des nouvelles de l'acteur principal de ce film qui était son meilleur ami et qui a brusquement disparu, ce qui explique donc que ce film se soit arrêté net, puisqu'il n'y a que deux séquences qui ont été tournées. Voilà. Et c'est la quête donc de ce Miguel donc, pour retrouver cet ami qu'on va voir pendant tout le reste du film, ou presque, puisque la fin, qu'il ne faut pas révéler, je pense, Ariel.
Non, bien sûr.
Nous donne pas mal d'explications quand même.
Oui. Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le ressenti après avoir vu ce film. Il a été donné à Cannes, au Festival de Cannes. Donc je l'avais vu au Festival de Cannes.
Mais il n'était pas en compétition.
Mais il n'était pas en compétition officielle. Et il était dans la section Cannes première. Donc je ne sais pas vraiment à quoi correspond. Enfin bon, c'est depuis un an ou deux, Cannes première, ou deux ans je crois. Mais il faut quand même noter que donc Victor Erice a refusé l'invitation du festival parce que il n'était pas justement dans la compétition officielle. Et c'est dommage parce que vraiment c'était un film de compétition pour moi. Hein, et effectivement, il ne tourne que des films essentiels pour lui. Je crois que c'est ça son but. Hein, c'est pas.
En tout cas, c'est son choix.
C'est pas du commerce, quoi. Il tourne quand il a quelque chose à dire, voilà. Et bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il prend le temps de filmer. Enfin, ces films, c'est aussi une histoire de temps. Hein, là, le film, il fait quand même 2h46, hein, presque 3h, qu'on ne sent pas passer. Si on se met dans son temps à lui, en fait, on suit l'histoire et on suit sa façon de filmer, hein, parce qu'il filme vraiment comme il vit de sensations, d'associations d'idées, de rencontres. Son sujet, bah, c'est l'humain, c'est ce personnage de Miguel Garay, qui est un double, une mise en abîme, comme tu dis, puisque c'est un réalisateur. Donc il y a un réalisateur qui filme l'histoire d'un réalisateur, évidemment. On cherche des.
On aura l'occasion d'en rappeler plus tard. D'en parler plus tard d'ailleurs de ce genre de choses.
Oui. C'est quand même aussi une grande constante. Enfin, il y a beaucoup de films sur ce qui s'attaquent à cette façon d'utiliser le cinéma, hein, c'est-à-dire de mettre en abîme ses propres questions et son propre métier. Et donc voilà, sur le début du film, effectivement, ça donne le ton, mais ensuite on s'attache vraiment à ce personnage, Miguel Garay, hein, et là aussi il y a presque une enquête policière, enfin sauf que c'est Miguel qui mène les recherches, mais pas parce qu'il a voulu, c'est parce que cette émission le propulse et lui permet de retrouver des personnages.
Voilà, il y a aussi ce
phénomène,
un retour sur le passé, une projection sur l'avenir, tout ça se mélange dans le film. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué aussi au début, à la fin du film, c'est que dans le jardin donc de cette belle maison Trisse le Roi où on pénètre au début, tout à fait au début et tout à fait à la fin du film, on s'arrête sur une statue de Janus.
Oui,
Janus, en effet. C'est l'homme de visage. Donc
oui,
je pense que ça se trouvait pas là par hasard non plus. Ce qui m'intéressait aussi dans ce film, c'est un film sur le cinéma, sur l'amour du cinéma. Il y a ce personnage donc qui est l'ancien monteur de Miguel, qui est un vieux monsieur qui vit dans une espèce d'antre entouré de
Max.
Max, ouais. Voilà, entouré de bobines de films et qui vit là-dedans en attendant la mort. On sent que, voilà, il sort que pour faire ses courses. Il est complètement imbibé là-dedans. Il y a des affiches de films aussi. Il y a des clins d'œil. Il y a une affiche du film Shanghai Jester de Wenzenberg. Il y a une affiche de film de Max Rocca. Il y a l'extrait du film des frères Lumière, l'entrée du train dans la gare de La Ciotat. Enfin, et tout nous ramène finalement au cinéma. Alors, y compris, et là je vais faire un retour sur son premier film, donc l'Esprit de la ruche. L'actrice donc qui joue la fille
de l'acteur disparu, cet homme,
ce Miguel qui a disparu, qui est joué par Anna Torrent. Et Anna Torrent, c'est celle qui jouait la petite fille dans évidemment Cria Cuervos, mais 3 ans auparavant, donc dans L'Esprit de la ruche, qu'on peut voir d'ailleurs encore sur la chaîne la numéro 7. Il est encore visible en replay, je ne sais pas jusqu'à quand, mais c'est encore possible. Arte.
Sur la chaîne Arte, voilà. Oui.
Et donc, la petite fille, c'était déjà Agnès.
Anna Torrent.
Anna Torrent, voilà. Oui. Avec sa mèche et ses grands yeux comme ça. Voilà, donc tout ça, moi j'ai beaucoup aimé tous ces mélanges, tous ces clins d'œil, toutes ces histoires, et évidemment cette enquête qui, c'est avec ces rebondissements, il y a un vrai suspense, également.
C'est ça, oui, il y a un suspense, mais ça se déroule. Enfin, c'est pas des choses très très brutales où tout d'un coup, ah, on comprend. Non, parce que tout ça
tourne un peu en rond, en fait.
C'est pas en rond, mais c'est des cercles, disons, dans la mémoire.
Les cercles, en général, ça tourne un peu en rond, mais bon, on va pas se discuter là-dessus.
Des boucles.
Que l'on appelle prof de mathématiques, s'il vous plaît, qu'on puisse avoir cercle, sphère, carré, qu'est-ce qu'il y a en rond.
Oui, parce qu'on revient toujours, on a l'impression qu'on revient toujours à un point de départ, et puis...
Mais en fait, non.
Il y a des fois ce pisse, enfin, c'est... Moi j'ai vraiment 2h48 ou 49, je ne sais plus, on ne s'ennuie pas une seconde.
Ça vous a marqué, j'ai l'impression.
On a hâte d'attendre la suite.
Ah, mais enfin, pour moi, c'est le plus beau film de l'année. Hein,
au moins de l'année.
Oui, au moins... Au moins de l'année, oui. Il y a vraiment aussi la recherche du passé, bien sûr, l'amour du cinéma, mais il y a, la recherche d'identité sur le statut de l'acteur, sur la création, puisque Miguel ne veut plus tourner. Il essaye d'écrire un roman, mais il n'y arrive pas. On voit que Julio Arenas, donc l'acteur, s'est perdu. On ne sait pas où, ni comment, ni... Mais Miguel aussi s'est perdu. Mais c'est lui qu'on suit. Et donc c'est lui qui recherche aussi, enfin, qui, sans le vouloir, mais qui est amené à évoluer grâce à son ami disparu.
Voilà, c'est-à-dire qu'il a été dans la dèche, il est toujours dans la dèche. C'est une espèce de nouvelle chance qu'on lui donne avec cette recherche de redevenir peut-être ce qu'il était avant. Mais bon.
Voilà. Ouais, c'est pas des cercles que je vous dis, c'était des circonvolutions. C'est beaucoup mieux.
Je comprends mieux.
Des circonvolutions scéniques.
Bon. Allez, on valide. On valide. C'est, en tout cas, vous avez, je pense, beaucoup donné envie à nos chers auditeurs et auditrices d'aller voir ce film encore disponible à Utopia et que vous verrez encore pendant un petit moment. C'est Fermer les yeux, donc de l'hispano-argentin, monsieur Victor Hérissé. Avec cette maison qui t'a marqué, Triste le Roi, qui fort sympathique. Peut-être que vous nous écoutez depuis là-bas, actuellement, en direct sur FM Plus, depuis chez vous, chers auditeurs, chers auditrices, en ce 19 septembre.
Il n'y a pas de raison.
C'est ça. Sortez et allez voir ce film au cinéma, c'est le message du jour. On se fait une petite pause musicale et on continue de parler des autres films.
Alors, on fait une petite pause musicale, on l'écoute tout de suite et je vous dirai ce que c'est après pour ceux qui n'ont pas trouvé.
Allez, on fait comme ça.
Thank you.
rentrée Sine Qua Non, c'est l'association Profil qui organise ça. On est le mardi 19 septembre. Si vous nous écoutez en direct, toujours avec Ariel Demont et Claude Bonnet, merci beaucoup d'être là. Et je ne sais pas si vous avez réussi à deviner ou pas le titre.
Alors, ce que nous venons d'entendre, donc, c'est une pièce de guitare donc, d'Albéniz, Isaac Albéniz, qui est un compositeur espagnol. Et ce morceau s'appelle Asturias. Et si je l'ai pris, ce n'est pas pour rien, c'est parce que dans le film donc, Anatomie d'une chute, c'est le morceau que joue le jeune Daniel, hein, je crois que c'est ça. Le fils aveugle, et on l'a pas dit tout à l'heure, mais
c'est bien, oui, de revenir dessus. Justement, on avait oublié de parler de la musique.
Et c'est le moment de le dire, c'est que plus on avance dans le film, plus il joue bien.
Oui.
Voilà.
Ah oui, c'est très net.
Hein, c'est très net.
Ouais.
Donc là aussi, il y a une notion de progression, d'intégration dans le film de ce garçon. Et donc, et contrairement à ce qui se passe dans le film, donc c'est un morceau qui a été composé pour la guitare quand même. Hein.
Oui, il le joue au piano.
Voilà, et non pas au piano, mais qui se joue aussi au piano, hein, évidemment.
Un autre morceau de piano dans le film, c'est une partition de Frédéric Chopin, un prélude en mi mineur, et c'est deux temps différents dans le film, la mère et le fils, voilà. Et c'est aussi un point de reliement et
lien,
de différence.
Voilà, un peu entre les deux aussi.
Voilà, voilà. Très, très, très intéressant aussi. Oui. Voilà. Merci,
et c'est d'ailleurs donc la seule musique qu'on entend dans le film.
Oui, non, celle du début, mais bon.
Oui.
Celle-ci, bah si on la réentend, mais enfin bon, celle-là, elle
alors,
est.
Alors, la question
contre...
que. Moi, je parlais de musique. Est-ce que ce qu'on entend au début, c'est de la musique?
Bien sûr, c'est une musique.
Qu'est-ce que la musique? Le débat est lancé, voilà. Non, il y a des messages sur les réseaux sociaux.
Enfin, comme disait Johnny, ce n'est pas la musique que j'aime.
Oh, incroyable. Allez, on va parler de vos coups de cœur dans quelques instants. Il y aura aussi Le Ciel Rouge. Juste avant, c'est un film français cette fois-ci. On écoute la bande-annonce. C'est Le Livre de Solutions.
Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films.
Ça vous plaît pas?
On arrête le tournage.
Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez la tante de Marc.
Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort.
Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin.
Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait 2 jours qu'il fait que ça.
Il faut démarrer son projet comme on démarre...
On arrête le tournage, ils disent dans le teasing, mais on continue l'émission Sine Qua Non. Vous avez sûrement reconnu les voix de Blanche Gardin, de Pierre Niney, Michel Gondry, sur de la comédie française, j'ai l'impression. Comédie française.
Oui.
Oui.
C'est une comédie française,
c'est validé.
Effectivement.
Yeah.
Alors, donc Michel Gondry, on le connaît quand même depuis Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Oh yeah.
Ouais, j'aurais dû m'entraîner quand même. Voilà, qui est quand même un vieux film. Hein, et alors, Gondry, il sait tout faire. Hein. Il peut même faire le comédien. Il est un peu comme Eris, mais entre temps il fait beaucoup de spots publicitaires. Il a fait également aussi beaucoup de clips pour des chanteurs. Voilà.
Il a commencé comme ça.
Et oui, il a commencé comme ça, mais il continue toujours, je crois. C'est son voilà, et pas avec n'importe qui en plus. Hein, c'est avec des gens de premier plan.
C'est un boulimique, lui. C'est,
voilà,
il pas
fait,
comme Eris, non.
Il a fait aussi quelques courts-métrages. Il a fait des BD quand il était jeune. Et là, donc, il n'avait rien fait, je crois, depuis L'écume des jours en 2013. Et c'est d'ailleurs... Il a dit lui-même... Hein, c'est pas une auto-fiction, peut-être, hein, ce film. Mais il a été quand même assez déprimé après L'écume des jours. Et ça lui a donné l'idée de faire ce film. D'autant plus qu'il s'est trouvé quand même, avec Pierre Niney, des points communs. Donc, c'est un... Alors, c'est l'histoire de Marc, donc, qui est un réalisateur. Là aussi, j'annonçais tout à l'heure, on est dans la mise en abîme. Marc, donc, interprété par Pierre Niney, qui est un réalisateur torturé, qui, en pleine réunion de travail, donc, dans la maison de production sur les Champs-Élysées à Paris, quand on lui refuse, donc, vu ce qui a dû se passer, et qu'on devine, on le refuse de lui laisser terminer le film, donc, il prend ses ses clics et ses claques, c'est-à-dire Charlotte, qui est interprétée par Blanche Gardin, Francky Valach, qui interprète Sylvia, donc sa monteuse. Ils foutent le camp, donc ils ramassent tout ce qu'ils ont fait pour le film, le matériel, les bobines, etc. Et ils foutent le camp en voiture chez Tati Denise, donc,
Qui est dans les Cévennes.
La tante donc de Marc, dans les Cévennes. Et alors, c'est qui est interprétée par Françoise Lebrun, qu'on a connue comme actrice chez Romer.
Formidable.
La maman et la putain, donc qui a évidemment beaucoup changé depuis, mais qu'on reconnaît quand même. Et tout ça, donc, dans les Cévennes, et pas n'importe où, puisque ça, c'est tout près de chez nous, c'est à Camprieux, et c'est dans la vraie maison de sa vraie tante que c'est... tourné toute cette partie.
C'est vraiment la tata, quoi.
Voilà, c'est vraiment la tata. Donc, ils ont tourné tout ce film avec des gens du coin, dans ces jolis paysages du massif de l'Aigoual. Et là, donc, Marc, quand il arrive là-dedans, il a qu'une idée, c'est de refaire son film à sa façon, avec ses moyens qui sont quand même très limités. Et ça donne lieu, évidemment, à beaucoup de scènes drôlatiques, amusantes. Mais quand même, alors c'est un film où j'ai ri, où j'ai souri plutôt, et beaucoup moins quand même que ce qu'on annonce. Voilà, j'ai été un peu surpris, non pas sur la qualité, mais sur la quantité, parce que dans beaucoup de critiques, on rit du début jusqu'à la fin. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Maintenant, je n'ai peut-être pas l'esprit Gondry non plus.
Alors, je ne sais pas s'il y a un esprit Gondry, moi j'ai beaucoup ri.
Ah.
Ce qui ne m'arrive pas souvent au cinéma d'ailleurs. Surtout pour les comédies en général. Oui. Donc effectivement, c'est pas une comédie, ou pas seulement une comédie, hein, oui. Parce qu'il y a toujours un esprit un peu autodérision. Et c'est vraiment ce que fait le réalisateur du film, donc Marc Becker. Il est aussi lui-même sans arrêt en train de se moquer un peu de lui-même, hein, puisqu'il y a une voix off où il se reprend constamment quand même. On sent que des fois il trouve qu'il va un peu trop loin. Mmh. Effectivement, le génie, c'est d'avoir pris Pierre Niney, parce que c'est comme tu dis, il y a quand même une même famille, quoi. Hein,
ils se sont bien trouvés, on va dire.
Ils se sont bien trouvés. Ils ont le même, pas le même délire, mais enfin ils sont tous les deux. Enfin, il est super, Niney. Il est vraiment dans le. Il est surexcité et il donne bien corps à ce personnage, hein, qui est un peu obsessionnel. Et c'est vrai que par rapport à par exemple La science des rêves, que moi j'avais adoré, hein, qui est de 2006, il y a moins de poésie et peut-être d'imagination, parce que là il y a un petit passage où il fait un espèce de dessin animé. Il peut pas s'empêcher, de toute façon, Michel Gondry, ouais, de d'utiliser des moyens. C'est l'artisanat, quoi, c'est son cinéma, hein. Il fait avec ce qu'il a, et non, c'est vrai, c'est... que le côté sérieux, enfin le côté presque dramatique, c'est effectivement que ce personnage qui se sent toujours manipulé, enfin qui est toujours triste le matin, qui prend des médocs, et qui les arrête brusquement. Enfin, il y a un côté un petit peu tragique quand même dans ce personnage.
Oui, et réel, dans la mesure où quand même c'est ce qui est arrivé à Michel Gondry.
Mais heureusement, il y a Denise.
Voilà. Il a tenu le coup. Non, mais c'est vrai, il a ce côté insupportable. C'est un peu ce côté enfant gâté, donc qui fait à la fois son charme et ce côté un peu crispant, quoi, un peu énervant à la fin.
Oui, bah oui.
Et alors, moi, ce que je reproche aussi...
Il est charmant,
enfin, oui, oui, quand oui, même, oui, bien hein, sûr.
Il est énervant, mais il est charmant.
Oui, il est charmant, voilà. Ce que je reproche aussi, c'est que je trouve que les deux personnages, donc, de ces deux assistantes, sont un peu... auraient mérité mieux, voilà. Je trouve qu'elles sont réduites un peu à faire ouf, de temps en temps à l'engueuler. Voilà, il y en a trop pour Niney, qui est dans son rôle d'en faire trop. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un semblant d'équilibre un peu, avec, surtout que ce soit deux bonnes comédiennes.
Oui, mais Enfin, oui, c'est peut-être, tu as raison. Oui, peut-être. Mais Denise, quand même, rattrape un peu la sauce, voilà, si j'ose dire. Elle connaît bien...
J'allais en finir sur Denise, qui est magnifique.
Ouais, et c'est son repère, et en même temps, elle sait comment le prendre. Enfin, il y a vraiment une vraie tendresse, là, on le sent. Ouais. Hein. Ouais. Authentique.
Ouais.
Ariel Harry, c'est ce qu'il faut retenir. Pour cette comédie, donc le livre de solutions à découvrir au Diagonale Cinéma et au Gaumont Comédie par Michel Gondry. Il nous reste un dernier film avant les coups de cœur. On peut enchaîner.
Il passe aussi au Diago. Hein.
Au Diago également,
oui,
en effet.
Oui.
Ça a été cité.
Non, parce qu'après, si je ne parle pas du Diago, moi je me fais engueuler. Hein.
Ah, on les aime. Bonjour à toute l'équipe du Diago. On les aime, on leur fait des bisous. On passe au ciel.
Oui.
C'est pas la météo, hein. Mais on va écouter à la bonne annonce le ciel rouge sur FM+.
Maman. Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten.
Wir werden nicht allein sein.
Nadja.
Kommst du nicht mit?
Nein, wirklich, die Arbeit lässt es nicht zu.
Schade.
Arschloch, ich bin so ein Arschloch.
Hey, was ist das? Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise das ist ein Manuskript. Der Verleger findet es scheiße.
Darf ich es mal lesen?
Auf keinen Fall. Also verstehe mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung.
Schon gut.
Le ciel rouge. Effectivement, il reste un petit quart d'heure pour parler du ciel rouge et de vos coups de cœur. Le ciel rouge, donc sorti en 2023 de Christian Petzold. Ariel.
Christian Petzold, oui, un réalisateur, scénariste et acteur né en Allemagne en 1960.
Mm-hmm.
D'abord assistant, il a travaillé pour la télévision et il a dirigé son premier film en 2000. Il a fait 4 films, je crois, jusqu'à Barbara. Enfin, moi, c'est le premier dont je me souviens, qui m'a vraiment marqué, hein, en 2012.
Oui.
Et ensuite, Phoenix, en 2014, avec l'actrice Nina Hoss. Et en 2020, il dirige pour la première fois Paula Baer dans Ondine.
Oui.
Donc, à partir de là, j'ai vu tous ses films et je trouve que c'est un réalisateur très intéressant. Et Le Ciel Rouge a obtenu l'Ours d'Argent au Festival de Berlin en 2023. Donc c'est l'histoire de Léon, un écrivain, un jeune écrivain un peu loser, complètement fermé sur lui-même, qui a du mal à gérer son ego après un premier succès, qui part en vacances avec son ami Félix, étudiant en art, dans une villa prêtée au bord de la mer.
Baltique,
bien sûr. C'est un film allemand. C'est de très beaux paysages, forêts. L'environnement sauvage, justement, est important. Surtout quand on tombe en panne en pleine forêt, justement. Et qu'il y a une première phrase assez énigmatique, mais très importante, qui est le jeune Félix qui dit « Il y a un truc qui cloche ». Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la musique aussi, on a entendu un petit peu la bande-annonce, hein. Un morceau un peu entêtant, un peu envoûtant, In My Mind, des Autrichiens, le groupe Valners. Et on est tout de suite dans l'étrange, un peu, hein, le sauvage et l'étrange. En plus, dans cette maison, il y a une fille qui est déjà installée et sans gêne. Léon va jouer le rabat-joie permanent. Il est à la fois voyeur et exclu. Il n'ose pas, évidemment, avouer son attirance pour cette petite peste vendeuse de glace qui est si jolie et qui est jouée donc par Paula Baer.
Elle vend des glaces, ça attire.
Pas pour un intellectuel, comme Léon. Parce que si Léon est donc le personnage principal, hein, c'est Bon, complexe, parfois ridicule, donc il y a même des moments un petit peu comiques dans le ridicule. Mmh. C'est Nadia, donc cette jeune femme installée déjà dans la maison où il pensait être tranquille dans ses affres d'écrivain en proie au doute, etc. Et c'est Nadia qui a le rôle central dans cette histoire et elle est éblouissante. On l'aperçoit assez tardivement, toute fraîche, dans sa petite robe rouge.
Mmh.
Et donc, le rouge, c'est aussi le ciel.
Voilà. C'est-à-dire que ça commence comme une comédie,
mmh.
avec ce personnage un peu grotesque, effectivement, ouais. de Léon, qui déjà d'aspect n'est pas très. Ce sont des jeunes adultes, hein, il faut dire. Donc. Et qui contraste un peu avec son copain Félix. Et au fur et à mesure, donc c'est comme si les personnages avaient avancé masqués, je trouve. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on aperçoit vraiment finalement leur vraie personnalité. Et finalement, le révélateur, c'est cette Nadia au milieu. Donc je pense que Léon, immédiatement, dès qu'il l'a vue, il est tombé amoureux d'elle.
Oui, mais il ne se l'avoue pas. Hein. Enfin, il... Il la critique, enfin oui.
Oui, mais c'est un peu son esprit tordu qui veut ça. Donc on voit qu'il est quand même jaloux du maître nageur, donc qui est l'amant de Nadia. Et puis ce personnage, donc qui quand même, je pense qu'il a tous les défauts de la terre ou presque. Hein. Il est antipathique, mmh. Il est même détestable, il est méprisant. C'est vraiment le anti-héros par excellence. Donc il est là, on se demande, il est là pour écrire son bouquin, mais il fait aucun effort en fait pour le faire. En fait, ils sont là tous les deux. L'autre, Félix, il est là pour prendre des photos. En fait, la seule chose qui intéresse, c'est à se baigner. Donc c'est un peu drôle au début ces situations, donc un peu bizarres. Et puis après, donc il y a cet amour, donc ce désir qu'il va avoir pour cette Nadia, qui va les rapprocher et qui va changer évidemment l'aspect et l'impression qu'on avait, cette mauvaise impression qu'on avait au départ sur ce personnage qui devient finalement de plus en plus attachant.
Oui, au début, oui, il semble vraiment ne rien voir, ne rien comprendre aux autres. Hein. Il est un peu presque autiste. Et il faut que cette menace arrive, ce ciel rouge qui donc parle des incendies, donc une menace réelle et très très actuelle, malheureusement. Donc c'est, je pense, aussi un élément important qui a influencé le réalisateur. Donc cette devant cette situation assez terrible de l'incendie tout proche, il fait un peu sortir ce rôle d'artiste et le faire devenir plus humain. Et c'est une belle réflexion sur l'art en général et sur l'art qui est une vérité, hein, qui face à l'angoisse de nos vies nous apprend à comprendre, à aimer les autres et à avoir aussi cette sensation de désir qu'il éprouve et qu'il refoule un peu. Et surtout, il apprend aussi la considération envers les autres. C'est ça qui est très intéressant, enfin, qui fait évoluer le film. Hein, c'est vraiment une mise en scène qui est très fluide. Mais il y a une évolution et c'est pas on ne tourne pas en rond, quoi, là non plus. Hein.
Non, voilà. Il n'y a pas de circonvolution non plus.
Encore des maths.
Vous voir les chapitres précédents.
Encore de la géographie.
Oui, voilà, c'est ça. Moi, par moments, ça m'a fait penser un peu à Jules et Jim de Truffaut, mais vraiment de loin et par moments. Mais c'est ça, ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est le télescopage des sentiments entre les deux garçons, Nadia, la fille, et un peu, même si c'est davantage en arrière-plan, le maître nageur, l'agent de la fille.
Il y a l'éditeur aussi, la
voilà,
visite de l'éditeur.
Mais il y a des surprises aussi vers la fin, donc parce que quand je dis qu'ils avancent masqués, c'est... Bon, je laisse découvrir, c'est sur plusieurs plans, on va dire.
D'après le réalisateur lui-même, hein, Petzold dit qu'il revendique quand même l'influence d'Éric Rohmer. Enfin, mais c'est pas Éric Rohmer dans le sens où, pour moi, il y a quelque chose de plus que juste le marivaudage, quoi. C'est pas du tout ça.
Oui, moi, c'est pas Pauline à la plage.
Non, non, du tout.
Ah ouais.
Voilà.
Il va nous rester vraiment 2 minutes chacun, grand max, pour parler enfin des coups de cœur.
Alors, vite, moi je vais dire un mot sur Yannick, qui est le dernier film de Quentin Dupieux.
Génial.
Qui lui aussi n'a pas fait de film depuis 2018, donc ça manquait un peu. Et en vedette, donc il y a Raphaël Quénard, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, donc... Comme c'était le héros du Chien de la Casse, ce film qu'on avait beaucoup aimé.
Ouais.
Alors là, donc le personnage donc de Raphaël Quénard, c'est Yannick évidemment qui est la vedette. Donc on se trouve dans un théâtre parisien à la représentation d'une pièce qui s'appelle le Cocu. Donc c'est du mauvais théâtre de boulevard avec de mauvais comédiens évidemment. Et il y a une salle donc qui est très peu remplie. Et à un moment donné, il y a un type qui se lève en disant arrêtez, ça suffit. Moi je suis venu pour m'amuser. Votre truc c'est minable. Vous le jouez mal. Et je vais écrire le spectacle que j'aimerais voir. Voilà un peu le début du film. Le film qui est relativement court, hein, qui dure guère un peu plus d'une heure, et que j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Yannick.
Alors mon coup de cœur à moi, c'est une rencontre qu'on a faite fin août avec la réalisatrice Léa Fener, d'un documentaire, enfin une fiction, documentaire, mais docu-fiction comme on veut, qui s'appelle Sage Femme.
Ouais.
Hein, et c'est vraiment très, très, très fort. C'est aussi une nouvelle manière de faire un film sur le monde hospitalier. C'était une commande d'Arte au départ, avec des comédiens du conservatoire, mais Léa Fener l'a tourné avec aussi des sages-femmes. Elle a fait un véritable laboratoire pendant un an avec les sages-femmes, les scénaristes et les acteurs. C'est un travail collectif au centre... De la dramaturgie de ce film, c'est la naissance, bien sûr. Mais par le voile de la fiction, les soignantes ont dit à Léa Fener qu'elles arrivaient à dire plus que ce qu'elles n'auraient dit en interview. C'est-à-dire que le biais de la fiction leur permet de dire vraiment leur espace de questionnement. Et c'est un film qui devait être présenté à l'Assemblée nationale, aux députés. Et dans les documentaires sur l'hôpital et le monde des soignants, on a eu État limite qui va sortir normalement en fin décembre, je crois, de Nicolas Peduzzi. On a eu, bien sûr, de Nicolas Philibert sur l'Adamant. Et je pense que c'est très, très important dans le domaine social et politique de parler de ces personnes magnifiques. Et vraiment, c'est un film bouleversant, drôle, émouvant et... Encore une fois, politiquement très, très essentiel en ce moment. Voilà.
C'est super, j'ai utilisé la fiction pour ça, pour parler de métiers et de personnes qu'on croise comme ça à la naissance.
on a toutes et tous croisés. Tu t'en souviens ?
Ouais, vous souvenez.
À la suite de notre plein gré. Hein.
C'est vrai. Yannick donc et Sage-Femme pour les coups de cœur. On peut trouver des liens peut-être entre ces deux fictions ? Vous l'avez vu tous les deux ? Sage-Femme,
oui, je n'ai pas vu Sage-Femme, moi. Ouais.
Bien sûr. Et Yannick, toi, tu n'as plus voir Ariel.
Ah ben Yannick, pour moi, c'est la révélation de cet acteur magnifique. Hein,
ouais.
Et qui aussi un questionnement très politique sur le théâtre, la fonction et la présence du théâtre dans la société contemporaine. C'est très intéressant et c'est une façon très originale de le traiter. Comme dans le film des sages-femmes, la singularité de ce film, c'est de faire une fiction avec des personnes qui travaillent et qui font revivre aux personnes qui ont vraiment accouché la situation en jeu d'acteur. Enfin, c'est si la limite là n'est plus nette du tout et c'est vraiment très très riche.
La frontière entre le réel et la fiction. On peut faire plein de choses avec la fiction, c'est génial.
Oui.
On pourrait même faire des émissions, des ciné-quanon, on est là, on joue et tout, soi-disant, on invente des films.
Voilà, place à l'imagination.
Exactement, l'imagination n'a pas de limite, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci encore Ariel, merci Claude Bonnet pour cette belle rentrée. Ciné-quanon, donc l'association de deux profils en ce mardi 19 septembre. On a parlé de l'anatomie d'une chute, de fermer les yeux, du livre de solutions, du ciel rouge et les deux coups de cœur, donc Yannick... Et sachant qu'on a encore un peu de temps. Ouais.
Si je peux me permettre, ouais. On n'a pas parlé de tous les films qu'on a vus et qu'on a appréciés cet été, parce que je trouve quand même qu'il y en a eu beaucoup.
Il y avait une belle sélection.
Ah, il y a eu une belle sélection et il faut vraiment regarder les programmes à l'Utopia et au Diagonal pour voir ceux qui sont sortis dès août. Parce qu'il y a vraiment de très très belles choses.
Bon, mais on se retrouve au cinéma alors pour aller.
Le seul problème, c'est qu'il y en a trop
et qui reste
de moins en moins longtemps projeté.
C'est ça. Merci encore Claude, merci Ariel, merci à vous chers auditeurs, chers auditrices. À au mois prochain.
À bientôt.
À bientôt.